VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 19h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. La Cour pénale internationale a déclaré l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, et ses quatre co-accusés coupables de subornation de témoins dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les détails avec Nathalie Barge.
Jean-Pierre Bemba, ses avocats Aimé Kilolo et Jean-Jacques Mangenga, ainsi que Fidel Babala, un député du MLC, sont déclarés coupables d'avoir fabriqué ou présenté à la Cour pénale internationale des faux documents afin d'obtenir l'acquittement de Bemba. Un témoin de la défense, Narcisse Arido, est également visé par le verdict. L'ancien homme d'affaires a été condamné en juin à 18 ans de prison pour des meurtres et viols commis par sa milice en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Il avait interjeté appel de sa condamnation fin septembre, dénonçant des vices de forme, évoquant notamment l'arrestation de son avocat. Il s'agit du premier procès pour subornation de témoins de l'histoire de la Cour pénale internationale.
RDC, l'appel de l'opposition à une journée ville morte pour exiger le départ du président Joseph Kabila en décembre a été bien suivi ce mercredi à Kinshasa, la capitale, mais ignoré dans plusieurs grandes villes du pays. Le point avec Nani Talani.
Le mot d'ordre a été très largement suivi à Kinshasa. Mégapole normalement grouillante et bruyante, Kinshasa est apparu morne aujourd'hui. Les transports en commun ont roulé à vide, la quasi-totalité des boutiques sont restées fermées, la police et l'armée ont été déployées, mais la situation a été globalement calme. La grève générale a aussi été largement observée à Mbujimayi, bastion d'opposition. En revanche, elle a été ignorée à Kisangani, à Bukavu, fief de Vital Kamerhe, pressenti comme chef du prochain gouvernement, tout comme à Lubumbashi, deuxième ville du pays. À Goma, la circulation était normale, mais la plupart des boutiques avaient baissé le rideau. À Kananga, l'activité a tourné au ralenti avant de revenir à la normale. À Matadi, le port a fonctionné normalement, tandis qu'à Mbandaka, les gens sont allés travailler majoritairement vêtus de jaune, comme pour rappeler le carton jaune que l'opposition a tendu au président Joseph Kabila.
Le Premier ministre français Manuel Valls a affirmé aujourd'hui à l'Assemblée nationale française que la France resterait engagée au Mali tant que la menace djihadiste continuera de peser sur le destin de ce pays et de cette région. Nous n'avons pas le droit d'abandonner nos frères africains au moment où précisément ils ont le plus besoin de nous pour consolider les équilibres encore fragiles, a souligné M. Valls en précisant que sans l'action de la France, une partie du continent africain aurait complètement basculé. Comme plusieurs chefs d'État africains l'ont rappelé au ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian à Lomé au Togo en début de semaine. Nous aurions assisté à des massacres de masse et nous aurions aujourd'hui un califat au cœur de l'Afrique, a ajouté Manuel Valls. Rappelons que le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian s'est rendu le 15 octobre à un sommet de l'Union africaine à Lomé pour réitérer le soutien de la France à ses partenaires africains. Burkina Faso, le mouvement Balais Citoyen tire la sonnette d'alarme. Il dénonce l'insécurité et exige du gouvernement une reprise en main de la situation sécuritaire. La sortie de cette organisation de la société civile fait suite notamment à l'attaque djihadiste qui a fait 4 morts au sein de l'armée burkinabé à Intagom, dans la zone sahélienne du Burkina. On écoute Hervé Kam, porte-parole du Balais Citoyen.
Aujourd'hui, le Balais Citoyen a choisi d'interpeller. Ça veut dire que dans les jours à venir, il est évident que nous continuerons à travailler avec l'ensemble de la population burkinabé pour que nous mettons ceux qui nous dirigent face à leurs responsabilités. Parce que nous ne sommes pas prêts d'accepter que la sécurité des personnes et des biens au Burkina soit le dernier souci des autorités parce que justement, eux sont en sécurité.
Hervé Kam, porte-parole du Balais Citoyen au Burkina Faso. Nigeria, attaque de Boko Haram hier soir dans un village du nord-est du pays. Les soldats sur place n'ont pas pu repousser les assaillants et le groupe djihadiste a pillé et incendié des maisons. Eric Manirakiza.
Selon des témoins, les combattants de Boko Haram ont pris le dessus sur les soldats avant de leur dérober un véhicule équipé d'une mitrailleuse. Les djihadistes ont utilisé des armes lourdes. Ils ont par la suite pillé des maisons et des commerces, emportant des denrées alimentaires et du bétail. Avant le repli, ils ont mis le feu à tout le village. La localité ciblée est située à une dizaine de kilomètres de la ville de Chibok, dans l'état du Borno. Plus de 200 lycéennes y avaient été enlevées en avril 2014 par Boko Haram. Il y a deux jours, les mêmes assaillants avaient pillé et rasé le village voisin d'Okalali. Depuis 2009, plus de 20 000 personnes ont été tuées et 2,6 millions déplacées. En 2015, l'armée nigériane a lancé une contre-offensive et a reconquis de vastes territoires contrôlés par les islamistes, mais de larges zones de l'état du Borno restent inaccessibles.
Sénégal, une peine de 6 mois de prison avec sursis plus une amende de 2 millions de francs CFA a été requise aujourd'hui à Dakar contre marabout sénégalais, contre un imam sénégalais poursuivi pour avoir critiqué les puissantes confréries musulmanes du pays. L'audience a eu lieu en l'absence du prévenu qui a peur pour sa vie, selon son entourage. Tchèque Mbake Saho, 33 ans, est poursuivi pour injures commises par le biais d'un système informatique sur un groupe de personnes qui se caractérisent ou se distinguent par la religion. Le jeune imam avait accusé les marabouts sénégalais de faire du business avec la religion et de tromper les fidèles dans une vidéo diffusée sur Internet.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité hors d'Afrique, au Yémen, une nouvelle trêve doit entrer en vigueur ce soir à minuit. Ce conflit a fait près de 7000 morts en 19 mois. John Lydon.
C'est la 6e tentative de cessation des combats annoncée par l'ONU. Une trêve de 72 heures, renouvelable, doit démarrer ce soir à minuit, heure locale, et 21 heures, temps universel. Cependant, ce cessez-le-feu a été précédé de violents combats dans le nord, près de la frontière saoudienne et autour de Sanaa, la capitale. Avec l'implication des États-Unis et de la Grande-Bretagne, les belligérants semblent cette fois plus disposés à des compromis. Les civils payent le prix fort dans ce conflit. Ils sont souvent victimes de bombardements, comme celui sur une cérémonie funéraire à Sanaa qui a fait 140 morts et 525 blessés le 8 octobre. Au moins 3 millions de civils et 1,5 million d'enfants souffrent de malnutrition et une épidémie de choléra est apparue début octobre.
Présidentielle 2016 ici aux États-Unis, la candidate démocrate Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump débattront ce soir une dernière fois à 20 jours du scrutin. Hillary Clinton est toujours en tête des sondages. Au micro de Morgan Guiriec, plus de détails avec Jacques Aristide.
Comme lors de leurs deux premiers duels, Hillary Clinton s'est préparée pendant plusieurs jours à huis clos dans un hôtel près de son domicile de Chappaqua en banlieue de New York. Les stratèges de la candidate démocrate estiment que ces débats ont eu jusqu'à présent un impact déterminant dans la campagne. Donald Trump, lui, était encore en meeting lundi et mardi, ne consacrant que quelques heures par jour à la préparation du duel. Le milliardaire républicain a plus que jamais besoin d'un coup d'éclat, tant il a pris du retard dans les sondages. Porté par une popularité croissante auprès des femmes et des minorités, Hillary Clinton recueille en moyenne quelque 46% des intentions de vote contre 39% pour Donald Trump. Pour le politologue John Hudak de la Brookings Institution, Madame Clinton doit éviter d'attaquer son rival et plutôt faire ce qu'elle a fait lors des deux premiers débats, c'est-à-dire rester calme, éluder les attaques et laisser Donald Trump s'autodétruire.
Mais Jacques, M. Trump tirera sans doute les leçons des premiers débats pour mieux attaquer son adversaire, notamment sur la Syrie et la Libye qui feront partie du programme.
En effet, l'attaque contre le personnel diplomatique américain de Benghazi en 2012 reste un sujet brûlant pour les sympathisants républicains qui jugent Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, et partiellement responsable de la mort de 4 Américains, dont l'ambassadeur Christopher Steven. La mère d'un informaticien tué lors de l'assaut, Patricia Smith, très critique d'Hillary Clinton, a été invitée par Donald Trump à assister au débat. Après la publication par WikiLeaks de messages piratés, des questions sont attendues sur la position exacte de la démocrate sur le libre-échange et Wall Street.
Merci Jacques Aristide. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.